David Doucha est un réalisateur hongrois qui vit en France depuis une quinzaine d'années. Après quelques courts-métrages, il a réalisé son premier long-métrage, Fleur du Mal, qui était présenté dans le cadre du 46e Festival du film de Karlovy Vary. Anna Kubeshta l'a rencontré.
Culture sans frontières.
Anna Kubeshta.
David Doucha, vous êtes le réalisateur d'un film qui s'appelle Fleurs du Mal, au pluriel. Pas les Fleurs du Mal, même si ça fait référence en effet à Baudelaire, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et votre film est présenté à Karlovy Vary dans le cadre de la section Varieties Critics' Choice. Ce film a été présenté dans ce cadre au public. Quel était ce public et comment est-ce qu'il a réagi, simplement comme ça, à vif?
Ça a été une très belle expérience. La salle était complète, même il y avait des gens assis par terre. C'était un public très très jeune, et donc il y avait un débat assez animé à la fin, qu'on a dû couper au bout d'un moment parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. Comme le film parle beaucoup d'Internet et tout ça, je pense que c'est... Un public jeune réagit beaucoup plus dans le détail au film, puisque les jeunes générations ont intégré l'Internet dans leur vie quotidienne beaucoup plus qu'une génération de nos parents, enfin, un peu plus âgés.
Alors, justement, il faut un petit peu préciser, Fleur du Mal, c'est l'histoire d'une rencontre, la rencontre de deux personnages, ce sont les deux personnages principaux, un jeune homme et une jeune femme. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous résumer très brièvement l'intrigue?
Donc en fait, le film se déroule juste après les élections présidentielles en Iran en 2009, où en fait les élections étaient truquées et les gens descendaient dans la rue en Iran pour réclamer le changement. Ces gens utilisaient les réseaux sociaux, leurs téléphones portables pour médiatiser quelque part leur combat, mais aussi pour organiser la révolution. Et donc ça, c'est le backdrop, comme on dit, c'est le base. Et donc le film parle d'une jeune fille iranienne qui est envoyée en France par ses parents pour l'empêcher de participer à ces manifestations qui étaient très dangereuses. Et donc qui arrive en France et qui tombe amoureuse du bagagiste de son hôtel de luxe. Et donc eux, ils vivent une histoire d'amour très libre, très jeune, très... belle comme ça, mais elle garde contact avec son pays justement à travers les réseaux sociaux et donc elle est déchirée entre vivre l'amour à Paris ou rentrer chez elle pour se battre pour la liberté ou pour le changement en tout cas.
D'une certaine manière, son corps est à Paris mais sa tête est toujours finalement à Téhéran.
Absolument, et c'est précisément le problématique que pose le film au niveau d'Internet, c'est peut-être le critique que le film peut donner à l'Internet, c'est-à-dire que ça nous permet de vivre de multiples vies, de multiples avatars, enfin de multiples choses en même temps et qui peut aussi nous empêcher d'être présents réellement dans un endroit où on est physiquement. Et donc le film mélange une fiction tournée à Paris avec des images de YouTube que j'ai téléchargées qui représentent à peu près 20% du film, donc c'est des images d'Iran que j'ai trouvées sur YouTube.
Alors pourquoi vous êtes intéressé particulièrement à cette révolution-ci? C'est vrai que par exemple, c'est parce que c'est une des premières justement à avoir intégré cet élément de l'Internet et des messageries, des vidéos envoyées finalement de l'histoire qui se joue sous nos yeux.
Effectivement, j'ai suivi les élections en Iran même avant que ça devenait ce que ça devenait. Parce que je suis intéressé par le géopolitique, mais aussi parce que j'avais toujours des amis iraniens. Et cette fois-ci, cette élection était très particulière parce que c'était très vibrante. Il y avait des vrais débats télévisés entre les candidats, il y avait des vrais meetings politiques, et quasiment comme ça peut arriver en Europe. Et des gens étaient très engoués par ce qui se passait, et ils avaient vraiment l'impression que leur voix allait se faire entendre. Donc je suivais ça de près. Alors après, pourquoi l'Iran dans la suite? C'est vraiment parce que effectivement c'était pas la première fois, hein. Il y a des exemples, d'autres exemples, mais beaucoup plus localisés et avec quelque part beaucoup moins d'impact. Notamment Moldavie, il y avait une révolte des jeunes qui est aussi très, très liée à l'Internet. Mais cette fois-ci, c'était très intéressant justement par l'abondance de l'information qui circulait et le savoir-faire que les activistes iraniens ont mis justement la médiatisation de leur révolution. Effectivement, dans les médias, dès après, dès juin-juillet 2009, ça a été, ils ont dit, oui, c'est les révolutions Twitter, tout ça. c'est pas vraiment vrai, enfin c'est vrai dans une certaine façon, mais il faut dire que le Twitter, l'utilisation de Twitter en Iran est très très limitée, c'est pas du tout ça qui était le moteur de la révolte. Par contre, ça a été Twitter a été le moteur de la médiatisation de ces événements, c'est-à-dire que c'est à travers Twitter qu'on a su être au courant en fait de ce qui se passe en Iran, et c'est à travers Twitter aussi que les activistes attiraient l'attention des médias occidentaux à ça, et donc du coup c'est pour ça aussi que ça s'appelait donc Twitter Revolution, mais qui est un peu ça vend bien des journaux, donc je pense que c'était ça. Mais malgré cela, c'était quelque chose où l'internet était très important pour justement l'organisation aussi de la révolte.
Alors justement, quelles étaient un petit peu les réactions des jeunes? Est-ce qu'il y avait des personnes qui contestaient finalement à Internet cette force, ou alors en tout cas qui critiquaient pour les écueils dans lesquels on peut tomber justement quand on est branché 24 heures sur 24?
C'est une question compliquée. Il n'y avait pas du tout de critiques négatives, c'est-à-dire des gens qui questionnaient justement l'évolution dans laquelle on est engagé quelque part. Ça a été des débats qui étaient dans d'autres festivals, mais hier notamment, c'était plutôt des gens étaient très contents que justement, j'étais pas du tout dans cette espèce d'alarmisme général que l'internet ça tue les contacts humains, des choses comme ça, parce que c'est pas du tout vrai, pas du tout. Je pense que les générations qui nous dirigent, c'est-à-dire les générations qui ont maintenant 60, entre disons 55 et 75 ans, ils ont aucune idée de ce que c'est l'internet réellement, ils ont aucune compréhension du pouvoir des réseaux sociaux.
Et du coup, ça leur fait peur aussi?
Ça leur fait très peur, et avec justesse, parce qu'ils sont en train de perdre leur pouvoir à cause du fait qu'ils ne comprennent rien des réseaux sociaux et comment fonctionne en fait l'information dans cette ère. Moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là aussi, mais peut-être qu'ils n'ont pas suivi la révolution iranienne, peut-être qu'ils suivent un peu, tout petit peu plus les révoltes arabes, parce que maintenant c'est vraiment massif, ça touche une grande surface de la terre finalement, enfin, de Maroc jusqu'en Iran. Il y a deux choses, c'est-à-dire que il y a simultanément de ce qui se passe en Moyen-Orient qui est très très particulier parce que c'est des dictatures et ils sont en train de se débarrasser, c'est un peu une chute du mur de Berlin 2.0 si on peut dire ça. Mais je pense que ce qui se passe ici en ce moment, c'est une crise profonde de la capitalisme européen mais aussi occidental, dans un sens où l'idée de capitalisme, de logique du marché, de prêt bancaire, tout ça est arrivé au bout. Je pense qu'on est au bord de la faillite. Je pense qu'on va faire faillite. C'est juste une question de temps. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très, très, très en colère parce que nos dirigeants politiques sont en train de brader notre futur, hein, pour des raisons complètement débiles. Et je pense que des jeunes sont en train de regarder justement comment les jeunes d'autres pays utilisent les réseaux sociaux pour forcer du changement. Et je pense qu'on va voir des mouvances en Europe aussi de même forme, même si ça va pas être violent, parce que la police en France ne va pas tirer dans la foule. Enfin, ça n'existera jamais.
Oui, mais remis à la situation française, il peut se passer des choses similaires pas forcément de révolution, mais de révolte ou de rébellion, quoi.
Oui, je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Je pense qu'il y aura l'élection française qui va être très très houleuse. Je pense que ça a déjà commencé avec plein d'affaires de mœurs. Disons, je pense que ça va être une élection présidentielle très houleuse. Mais au-delà de ça, je pense que ce que je disais, c'est que l'Europe et l'euro sont en face d'une crise mortelle, je pense. On va pas le résoudre, pas en gardant un status quo. Ça va changer profondément le fonctionnement politique de l'Europe. Et le problème, c'est que les vieux, ils sont en train de juste se dire qu'ils essayent de repousser l'échéance de cette débâcle à 10 ans pour qu'eux, ils prennent leur retraite. Et puis après, c'est le problème de la prochaine.
Pour revenir à votre film, j'aurais aimé un peu parler des acteurs qui sont touchants. Enfin, notamment, j'ai trouvé particulièrement le jeune homme qui joue Rachid. Comment est-ce que vous les avez trouvés? Enfin, c'est des acteurs amateurs?
Alors, la naissance du film, c'est effectivement des vidéos YouTube, mais aussi Rachid. Rachid, je l'avais rencontré pour un autre projet, en fait, que j'ai pas encore fait, qui n'est pas encore financé. En fait, je l'ai rencontré dans une situation de casting assez classique pour une autre long métrage. Et puis, au fur et à mesure qu'on a travaillé sur l'autre projet, on s'est vu donc non professionnel. C'est un danseur, donc la danse, ça a été déjà faisait grande partie de sa vie.
Ça se voit.
Ouais, c'est pas moi qui l'ai appris à danser, ça je peux dire très honnêtement.
Ça sentait quand même qu'il y avait du vécu derrière.
Oui, hein. Oui, c'est vraiment la danse et le mouvement physique, ça a été vraiment très important pour lui, sa moyen d'expression naturelle. Et donc, au fur et à mesure de notre travail ensemble, c'est-à-dire on se voyait toutes les semaines, une fois au moins, même parfois juste pour boire du café, pour discuter. Et donc, petit à petit, il est devenu très intime, un ami. Et donc, il s'est ouvert et puis il a raconté sa vie. Et donc, le personnage de Rachid dans le film est très très proche de la réalité. C'est-à-dire qu'on tourne dans son appartement au bord de la périph. C'est quelqu'un qui a grandi dans un foyer depuis l'âge de 3 ans. Tout ce qu'il dit dans le film est absolument vrai. Enfin, c'est vraiment sa vraie vie. Et il a aussi participé largement dans l'écriture de son personnage. Alors, le film est né quelque part entre la rencontre de ces images de YouTube et Rachid. Anaïta est jouée par une actrice française qui s'appelle Alice Belaïdi, qui est une actrice professionnelle, complètement... qui a fait du théâtre depuis le plus jeune âge, donc c'est un professionnel. Son personnage est un mélange entre plusieurs choses. D'un côté, ça c'est des gens que j'ai connus qui ont vécu des choses comme ça, d'être déchirés entre deux choses, mais aussi un tout petit peu ma propre expérience en vivant dans d'autres pays tout le temps et de tout le temps être dans une espèce de limbe de no man's land identitaire quelque part, et d'être là et ne pas y aller et puis rester ici, mais c'est pas bien non plus, et puis une espèce de limbe perpétuel.
Pour terminer, simplement, est-ce que vous avez là un projet en cours peut-être lié à ce film?
Absolument. Là, je travaille sur un nouveau projet qui s'appelle « La révolution ne sera pas tweetée », qui parle de justement réseaux sociaux, changements sociaux, ou plutôt comment est-ce que justement, à la suite de cette crise, une crise de civilisation, civilisation, faut pas déconner, une crise de capitalisme, une crise actuelle, comment est-ce qu'on pourrait utiliser les expériences de printemps arabes ou le mouvement vert en Iran, comment est-ce qu'on pourrait utiliser leurs expériences de l'utilisation de réseaux sociaux pour construire notre société, c'est-à-dire que ne pas juste se débarrasser d'un dictateur, mais aussi de justement utiliser les réseaux sociaux pour construire une autre société.